Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Nous allons prendre un texte, une méditation ce matin qui concerne le développement, les progrès de notre vie spirituelle. Voilà, il y a différents sujets que nous pouvons aborder dans la Bible. Celui-ci, eh bien, ce n'est pas seulement une nécessité, c'est, on pourrait dire, eh bien, quelque chose d'absolu, puisque notre destination, c'est pas la terre, simplement notre passage sur cette terre, mais c'est dans le ciel. Et je vous propose une première lecture dans Luc, au chapitre 13 et au verset 6. Nous en ferons une seconde dans l'Ancien Testament qui viendra compléter celle-ci et qui, en quelque sorte, est le complément. Donc, Luc, chapitre 13, verset 6. C'est une parabole. Jésus dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans, que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Une seconde lecture qui s'associe à cette première, livre du prophète Ésaïe, chapitre 5, et c'est aussi parabolique, c'est une allégorie. Comme nous en trouvons si souvent dans la Bible. Alors, Ésaïe, chapitre 5, verset 1er. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Quelle histoire ! Au pluriel, les deux histoires. Alors, ce vigneron dont nous parlons, il s'agit de Jésus. Ce exploitant de vignoble, c'est Dieu qui parle à Israël. Jésus s'incorpore dans l'histoire du figuier et il se présente comme celui qui va faire grâce. On lui dit coupe-le parce qu'il est improductif ce figuier. Et le vigneron qui est l'image de Jésus dit non, encore un peu. Ne fais rien, ne coupe pas. On va faire ce qu'il faut pour qu'il puisse produire. Vous avez remarqué avec moi que dans les deux textes, le premier, le figuier stérile, totalement stérile. Le propriétaire va quérir quelques figues dans son figuier et il cherche, il n'en trouve pas. Mais rien du tout, total. Et en ce qui concerne la vigne, eh bien à ce moment-là, nous nous apercevons que elle va produire, mais elle va produire du mauvais fruit, c'est-à-dire du mauvais raisin. Alors, qu'il y ait la stérilité, l'infécondité d'un côté, ou qu'il y ait une production de quelques fruits maigrichons, mais que finalement, ce n'est pas, un produit d'excellence ou un produit de qualité, encore moins, c'est vraiment médiocre, c'est mauvais. Qu'est-ce que l'on peut faire dans cette situation? Qu'est-ce que l'on peut faire? Alors, on a tous compris qu'il s'agit de la vie spirituelle derrière tout cela. qui se cache. C'est une exhortation qui est donnée à la fois au peuple d'Israël par le prophète Ésaïe, inspiré par l'Esprit de Dieu. Et c'est aussi une parabole qui nous est donnée par Jésus pour nous montrer que, eh bien, l'Église est impliquée. Elle a tout reçu, l'Église. Elle a reçu tous les soins, comme pour la vigne. Une tour, une cuve, un sol fertile et toutes sortes de choses. Et puis finalement, il n'y a rien du tout. Tout est mauvais. Enfin, c'est pas bon en tous les cas. Et puis en ce qui concerne, eh bien, le figuier, il a planté au milieu de la vigne, il a tous les soins. Hein? On se propose même de lui donner, eh bien, un amendement, de creuser encore la terre, de lui donner peut-être un petit peu plus d'oxygène, etc., etc. Et puis, finalement, eh bien, ça ne produit pas. Enfin, c'est en attente, puisque nous avons le plaidoyer du vigneron qui dit au maître, non, laisse-le encore une année, et puis à ce moment-là, je vais voir ce que je peux faire, et je vais lui faire grâce. C'est ainsi que, en ce qui nous concerne, Dieu nous fait grâce, et pour une raison particulière. Le sujet que nous allons aborder ce matin, c'est un sujet que nous abordons par fraction, par fragment dans bien des messages. Mais celui-ci, ça va être, si vous me permettez, une étude doctrinale sur un thème particulier qui est absolument nécessaire à l'Église d'aujourd'hui, à chacun d'entre nous, c'est la sanctification. Voilà, le mot est dit. Alors, il y a eu toutes sortes d'approches de la sanctification. On va le voir ensemble. Il y a des gens qui disent, je suis sauvé, c'est pas la peine d'en faire de plus. Hein. Voilà, on peut vivre encore avec notre ancienne nature. On peut encore se permettre des choses qui sont, je le sais, répréhensibles. Quelques petits écarts de caractère, petits mensonges, etc., etc. Et puis, il y en a d'autres qui poussent dans l'extrême. C'est-à-dire que c'est la sanctification absolue, sinon tu meurs. Alors avec toutes sortes de choses, telles que la mortification, telles que le sacrifice, telles que l'effort désespéré pour essayer de plaire à Dieu, il y a les deux côtés, hein. Il y a les deux côtiers. Tout commence ainsi, et je vais vous rappeler une parole que vous connaissez, c'est une parole de David. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle un esprit bien disposé. » Voilà. On pourrait peut-être présenter l'histoire de la sanctification. Moi, je l'ai eu sur le cœur de vous le présenter comme ça, pour que ça soit bien compréhensible. Le figuier qui ne produit rien, sec, rien du tout. La vigne qui produit, mais c'est du mauvais. Et puis David, qui lui, après une certaine aventure, où vraiment, il a vu qu'il n'était pas si super que ça, comme croyant, alors qu'il avait quand même beaucoup de qualités, mais un jour, il a drôlement achoppé notre ami David. Parce que non seulement il a pris la femme d'un autre, mais il a tué son mari, et puis il a menti, et puis il a vécu dans des mois et des mois de cachotterie. Et là, à ce moment-là, Dieu va lui dire, il va parler à sa conscience, comme il doit parler à notre conscience, parce que il faut que notre conscience soit réveillée. Et de prendre conscience que finalement, même si nous pensons que nous sommes les meilleurs des hommes, les meilleurs des chrétiens, eh ben, détrompons-nous. Nous avons, comme David aussi, des failles, des faiblesses, ou là, peut-être, en jurant sur nos grands chevaux que nous ne tomberons pas dans tel ou tel travers, et que finalement, ça sera peut-être pas les mêmes, mais ça sera d'autres. On n'est pas parfait, mes frères et sœurs. Eh oui. Peut-être que si vous l'avez pensé, je vais vous décevoir ce matin. Mais il faut le dire. Il faut le vivre. Et David dira à un moment donné, quand il prendra conscience, que le mal est en lui. Il n'est pas seulement chez les autres, dans le monde. Mais il dira bien tout simplement, « Ô crée, et ça c'est une belle prière, ô crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Est-ce que nous ne faisons pas cette prière très fréquemment, non? Mais c'est vrai. C'est vrai que nous la faisons cette prière, parce qu'on se dit, mais combien je suis faible devant le péché? Combien je suis faible devant toutes les impuretés de ce monde? Mais je ne veux pas pour autant juger le monde, parce que finalement il suffit de peu de choses pour que moi, je fasse la même chose. Ça peut être... Alors, on a parlé de la sanctification. Purifie mon cœur, Seigneur. Ouais, purifie mon cœur et tous les jours. Et je voudrais simplement vous la présenter sous deux formes, cette sanctification. D'abord, ce qu'elle est. Bibliquement parlant, ce que la Bible établit. Et puis, ce qu'elle n'est pas. Et là, nous allons pouvoir déjà commencer à faire un premier bilan. La sanctification, frères et sœurs, signifie une mise à part. C'est pas déjà avoir l'auréole sur la tête. C'est pas d'être déjà un saint. mais c'est une mise à part et c'est être consacré à Dieu. Et cela est arrivé le jour où nous nous sommes repentis, où nous avons confessé nos péchés à Dieu, que nous nous sommes convertis à Jésus-Christ. Et qu'à ce moment-là, eh bien, cette conversion a été l'occasion d'une régénération de l'Esprit de Dieu qui est venu et qui m'a fait naître de nouveau. Et ça, c'est immédiat, mes frères et sœurs. Le jour, il y a 20 ans, 30 ans ou plus tôt, le jour où vous avez accepté Jésus de tout votre cœur, alors à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle la régénération immédiate. Vous êtes sauvés. Dieu vous a pardonné vos péchés. Mais c'est pas pour ça que vous êtes ultra pur. Que vous êtes ultra saint, que tout est fini. Et la sanctification, c'est une mise à part, tout simplement. C'est l'apôtre Paul qui dira ceci. Ne savez-vous pas que votre corps, le corps, l'élément vraiment du péché, le corps, hein, est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, mais vous ne vous appartenez plus à vous-même, vous appartenez maintenant à Christ, puisque vous êtes devenu une même plante avec lui. Et bien que si je regarde Jésus et que je me regarde, ouais, aïe, aïe, ça donne le vertige. Hein. Enfin, moi, je parle pour moi. Hein. Je me dis, mais Jésus le Saint, trois fois Saint, et moi, qu'est-ce que je suis? La sanctification, et ça, ça va répondre à la question suivante, c'est la sanctification nous est acquise grâce à Jésus-Christ. Grâce. C'est pas vous, c'est lui. Ce n'est pas vos mérites, vos qualités d'homme, vos dispositions bonnes, mais c'est grâce à Jésus. Grâce à Jésus, parce que celui qui met sa foi en Jésus, on est d'accord? Vous avez mis votre foi en Jésus. C'est pas dans l'église. C'est pas en moi. J'espère en tous les cas, hein. Celui qui met sa foi en Jésus, celui qui est mort à votre place sur la croix, celui qui est ressuscité, alors vous qui croyez en Jésus, vous êtes tout simplement sanctifié, je le rappelle, vous avez été mis à part, mais c'est aussi un acte, tout simplement, un acte, un processus de chaque jour dans la vie du croyant. N'allons pas nous imaginer que nous avons un mois, 10 ans, 20 ans, 30 ans de conversion et que un jour tout a été fait, c'est miraculeux, c'est surnaturel, on n'en parle plus. C'est tous les jours que nous avons à demander, comme David le disait, crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Chemin est long, hein. Puis quelquefois on se bagarre drôlement avec nous-mêmes, hein. Parce que bon, il y a l'homme nouveau, c'est bien. Et puis il y a le vieil homme, il est tordu, il est retors. Et quelquefois, on ne s'aperçoit pas toujours, hein, nous-mêmes. C'est les autres qui nous le disent. T'as vu comment tu es? T'as vu ton caractère? T'as vu comment tu parles? Oh, oh, attention, hein. C'est chaque jour que nous avons, tant que Dieu nous donne la vie sur cette terre, eh bien, c'est pas hebdomadaire le dimanche matin quand vous venez au culte et vous prenez la Sainte Cène. Hein. C'est à chaque instant. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, la volonté de Dieu de nous sanctifier, de faire de nous, pour un autre monde, des saints. Par l'offrande du corps de Jésus, parce qu'il est mort à une fois pour toutes. Et c'est ce que l'on appelle la sanctification progressive. Il y a la régénération immédiate avec la nouvelle naissance, et il y a la sanctification progressive, jour après jour, et après jour, et après jour, jusqu'au jour où on fermera définitivement les yeux, où on rendra notre dernier soupir, jusqu'au dernier moment, nous serons encore dans cette école, ce perfectionnement, cet appel à marcher de progrès en progrès, et lorsque nous les ouvrirons de l'autre côté, ça sera fini. Nous serons finis. Nous serons à l'image de Jésus. Vous vous rendez compte? Ça vous va? Ça vous fait plaisir de l'entendre? Eh ben allez-y, hein. Il y a du travail, hein. Je parle pour moi aussi, hein. Cela se produira par une transformation intérieure. C'est pas l'extérieur, parce que vous savez aussi bien que moi que l'habit, voilà. Hein, mais toujours est-il que c'est une transformation intérieure du croyant qui est rendu juste parce que Dieu nous voit juste aujourd'hui. Mais c'est pas pour ça que je suis saint. Je suis justifié. C'est une grande doctrine de l'évangile. La justification. Il y a des gens qui se sont dit, mais maintenant que je suis juste, je sais que je suis juste. Alors, bravo, vive la vie, hein. À moi l'aventure. La sanctification nous est précisée dans le texte que c'est le fruit d'une œuvre du Saint-Esprit. Il y a le plan de Dieu à l'origine, du Père. Il y a l'accomplissement de cette sanctification par Jésus-Christ à la croix du calvaire. Mais l'œuvre maintenant, le Père, il est en haut. Le Fils, il est assis à la droite du Père. Mais c'est le Saint-Esprit qui travaille maintenant sur la terre, dans les églises, dans le monde des enfants nés de nouveau. C'est le Saint-Esprit, c'est une œuvre du Saint-Esprit à l'intérieur de moi-même, dans notre cœur, et qui renouvelle la nature de l'homme pour l'amener à l'image de celle de Dieu. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, il faut le vivre. On le sait dans la théorie, on le sait dans la pratique, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pour ça que quelquefois, nous avons des conflits avec nous-mêmes. On livre des batailles qui nous épuisent. Et plus on veut se battre, plus on s'épuise. Parce que ça marche par la foi, dans cette grâce. Puisque les choses sont déjà faites, elles sont pas à faire, elles sont déjà faites. Virtuellement, elles sont déjà faites. Et c'est un changement de notre nature, d'une nature pécheresse, d'une nature encline à toujours, choisir plutôt le mal ou le demi-mal, et que le bien, c'est le Saint-Esprit qui nous rappelle tout ça. C'est aussi une marque spirituelle. On est spirituel ou on est charnel. Vous avez vu, hein, il y a tellement d'exemples, surtout dans l'Ancien Testament. Moi, je pense à Jacob, qui était pourtant un croyant près de Dieu, mais alors je peux vous dire qu'il n'était pas débarrassé de son ancienne nature, hein. Et c'est une marque spirituelle, et elle permet de manifester l'appartenance à Jésus-Christ. C'est pas nous qui allons le dire, c'est les autres. Je reconnais que cet homme et cette femme, il s'est passé une transformation dans sa vie. Il y a quelque chose d'extraordinaire et de formidable. Parce que, on l'entendait mentir, il ment plus. Il buvait, il ne boit plus. Il fumait de la drogue, il ne fume plus de la drogue. Il avait toutes sortes d'idées saugrenues et toutes sortes de choses. Maintenant, c'est devenu un homme qui a été transformé. Et c'est notre appartenance. Et on dira de vous, parce que vous êtes sanctifiés, mis à part, mais parce que Dieu est en train de faire une œuvre de l'esprit, de sanctification, on dira, mais vraiment, il y a eu quelque chose. C'est un bouleversement dans la vie de cet homme. On en reconnaît les fruits. On en parlera d'ici quelques instants. Parce que c'est le comportement qui change. Ce sont nos actes qui changent. Ce sont nos paroles qui changent. Et tout ça dans la vie courante. Ça, c'est ce qu'elle est. Maintenant, ce qu'elle n'est pas, la sanctification. Alors là, il y a matière à réfléchir parce qu'il y en a plus à dire ce qu'elle n'est pas que ce qu'elle est. Il y a un malentendu par rapport au mot sanctification. Je dirais un malentendu religieux. Et c'est la religion qui a amené ce malentendu, c'est pas la Bible. La Bible, elle nous a dit la vérité. Elle nous a enseigné le bon enseignement. Elle nous donne la sainte doctrine. Elle établit les choses bien au clair et à la lumière. Mais c'est le malentendu religieux qu'il y a autour de la sanctification. Et là, on va finalement des extrêmes à une autre. On va de la secte à toutes sortes de déviances, toutes sortes d'élucubrations, toutes sortes de pratiques, toutes sortes d'idées saugrenues, mais on a dit ce qu'elle était. On reste sur ce que nous avons entendu de ce qu'elle était. Maintenant, on va dire ce qu'elle n'est pas. Parce que tout ce que vous allez entendre, c'est une fausse piste, mes frères et sœurs. Vous êtes croyants. Plus que ça, vous êtes chrétiens. Nous sommes une église évangélique, une église charismatique, et attention, il y a des fausses pistes dont les enseignants, les pasteurs, sont quelquefois les premiers responsables de faire prendre des fausses pistes et de donner une illusion de sainteté alors que ce n'en est pas une. Ou de sanctification, qui sont sanctification. La sanctification, ce n'est pas l'atteinte de la perfection. Déçu? Non, pas du tout. Quand il est dit dans 1 Corinthiens, c'est Paul, mais quand ce qui est parvé sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Donc nous en sommes pas là. Oui. Ce qui sera parfait. N'allons pas nous imaginer avec une prétendue doctrine que nous aurions inventée au fond de notre cerveau, que finalement il y a des pratiques, il y a des méthodes, il y a des recettes, etc., etc. Parce que plus saint que moi, tu meurs. Hein. Vous connaissez l'expression. Hein. Et celui qui veut faire le saint fait le singe. Excusez-moi. Hein. Je vous choque pas? Non. Parce que l'homme n'est pas parfait, il est perfectible. Adjectif perfectible, c'est-à-dire qu'il tend à la perfection. Il va vers la perfection. Il aspire surtout à la perfection. La sanctification, ce n'est pas s'imposer des rites, comme dans certaines obédiences chrétiennes, pseudo-chrétiennes, avec des rites bien conditionnés, bien ordrés. Ce n'est pas non plus des préceptes, commandements d'hommes, comme Jésus l'a dénoncé, hein. Vous avez changé, finalement, eh bien là, les commandements de Dieu au profit de votre tradition, hein. C'est Jésus qui le dit aux pharisiens. Et il méritait bien, d'ailleurs, des préceptes, des commandements, toutes sortes de choses. Ce n'est pas la loi, la sanctification. Parce que si ça avait été la loi, mais Jésus ne serait pas venu. Ben oui, il n'y aurait pas eu besoin de Jésus. Il n'y aurait pas eu besoin de la crucifixion de Jésus. Ça serait arrêté à Malachi, dans le livre, finalement, de l'Ancien Testament. Ça aurait simplement été, eh bien là, de la Torah jusqu'au livre prophétique. C'est tout. On n'aurait pas eu le Nouveau Testament. Ce n'est pas le légalisme. Il faut que ça sorte de notre tête. Et on voit bien que s'il y a eu le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, s'il y a eu Jésus, c'est parce que finalement, c'était impossible aux hommes d'être saints. La loi n'amène pas la sanctification. Elle amène qu'une illusion de sanctification qui est nourrie par l'orgueil religieux. Qu'est-ce que j'en dis des choses, hein? Oh là là! Parce que Jésus a dénoncé ses pratiques. C'est pas moi qui le dis, hein. Écoutez, il dira, malheur à vous, docteurs de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis. Oh, ça fait plaisir quand vous entendez ça. Hein. Tombeaux blanchis qui paraissent beaux à l'extérieur et qui à l'intérieur, eh bien, qui à l'intérieur sont pleins d'ossements de mort. C'est-à-dire, c'est un véritable cimetière. Parce que la loi, c'est la mort. Elle donne la mort, la loi. Alors que la grâce et la foi en Jésus-Christ, elle donne la vie. Ça change radicalement les choses. Vous de même à l'extérieur, dira-t-il, vous paraissez juste aux hommes, mais à l'intérieur vous êtes plein d'hypocrisie et d'injustice. C'est pas moi qui le dis. Et les pharisiens s'imaginaient être le nec plus ultra de l'Israël de Dieu. Vous savez que Jésus leur a pas fait de cadeau, hein. Et il avait raison de pas leur faire de cadeau. Vous savez que Jésus a été beaucoup plus indulgent avec la pauvre prostituée, avec les publicains, qu'avec les pharisiens. Alors c'est vrai que quelquefois ça fait pas plaisir tout ça. Les apparences de la foi, être ou paraître, la sanctification, c'est de pas avoir l'extérieur, mais c'est de l'être à l'intérieur de soi-même. Ça se voit pas au premier coup d'œil. Et il y a beaucoup dans le monde religieux, et c'est pas seulement le christianisme, hein, mais beaucoup d'apparats, beaucoup de choses qui font croire que bon, ben voilà, c'est certainement, eh bien là, être plus près de Dieu, alors que c'est complètement faux. Ouais, complètement faux. Les apparences de la foi. La sanctification, ce n'est pas un isolement de la société. Comme, on a appelé ça le monisme, où les gens se renfermaient depuis les temps immémoriaux du christianisme dans des abbayes, dans des monastères. Ils se mettaient entre quatre murs, un plancher, un plafond, comme ça ils s'étaient bien renfermés dans un cube. Mais une chose en disant, ben voilà, maintenant je ne peux plus vivre dans le monde, alors je me renferme, je me mets maintenant à l'écart, je ne veux plus parler à personne, c'est terminé, etc., etc. Vous croyez que finalement l'homme qui pense comme cela va emmener avec lui ses problèmes qu'il avait à l'extérieur, il va les emmener, et là il va tout seul à les digérer. Hein. Donc c'est pas l'isolement. L'Église est appelée à vivre dans le monde. Ça c'est certain. Ce n'est pas un retrait également du monde. Jésus dit cette parole que vous connaissez, mais je la restitue. Il est dit, Jésus parle à Dieu, hein, à son Père. Je ne te demande pas de les retirer du monde. C'est une fausse sanctification, ça. si nous avons là de nous mettre à l'écart, etc. Hein, mais de les préserver du mal. Ah oui, c'est plus difficile ça, cette position. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Et c'est pas pour ça que Jésus s'est pas mélangé avec le monde de son temps. Au contraire, il est rentré au temple, il est rentré dans les synagogues, il est rentré dans la maison des gens qui avaient une mauvaise réputation. Il a mangé, il a bu avec des gens qui finalement n'étaient pas fréquentables, etc., etc. Qu'est-ce qu'on va chercher pour se renfermer dans un endroit où on se dit maintenant il n'y aura plus de problème, je vois plus le monde, donc si je le vois plus, c'est que je vais plus avoir de problème. Bah dites donc, c'est véritablement une erreur grossière. Hein. Et prêcher ce genre de choses, c'est une hérésie. Imaginez-vous que je vous renferme ce midi. Et puis on dit, on va passer 8 jours ensemble, on va faire l'essai. Oh! Sans vous donner à manger et à boire, parce que ça facilite les choses. Au bout d'un certain temps, on dit, on va se crêper le chignon. Non! Enfin, nous, les hommes, on n'a pas, mais bon, même les dames, maintenant, c'est plus la mode. Mais toujours est-il que renfermer les gens comme ça, c'est sectaire. C'est sectaire. Il n'y a que nous qui avons la vérité. Il n'y a que nous qui sommes bien. Il n'y a que nous qui sommes véritablement les enfants de Dieu. Mais alors, dites donc, hein, faut vraiment dériver sérieusement. Hein. On n'est pas les seuls. Et heureusement qu'il y a des hommes, des femmes que je ne connais pas, ni de nom, ni de visage, et qui aiment le Seigneur comme nous l'aimons. Il ne faut pas les regarder en ennemis. Il faut les regarder en frères. Quand ils ont naturellement, eh bien là, le cursus que nous connaissons, qui est principal et essentiel, être sauvé par la foi en Jésus-Christ et dans sa grâce, et naître de nouveau. Ce n'est plus la sanctification un chemin de souffrance. L'un appelle l'autre. Je me renferme et je me torture. Croyez pas qu'on n'a pas suffisamment de problèmes, non? Vous voulez vous en donner plus? Vous voulez vous mortifier? Vous voulez vous flageller? Vous voulez vous crucifier? Oui, bah laissez ça à certaines époques, les tortionnaires dans les camps de concentration et tout ça, ils savaient faire. Alors c'est pas la peine d'y aller et c'est pas la peine de le vouloir, parce que ça ne changera rien, puisque Jésus a dit « tout est accompli ». Ce n'est pas un chemin de souffrance, mes frères et sœurs. Vivez comme vous avez à vivre, mangez ce que vous voulez, buvez avec modération. C'est de l'ascétisme. Ce n'est pas le légalisme, ce n'est pas de l'ascétisme, ce n'est pas du puritanisme ou du fondamentalisme. J'arrête parce qu'on va pas s'en finir, on va pas enseigner. Certains croient que la souffrance, la mortification de leur corps, de leur être physique, vont les purifier de leurs péchés. Il y en a qu'un qui nous purifie des péchés, c'est Jésus-Christ qui est mort à ma place et dans lequel je crois, et je reste finalement, et bien dans cette foi. C'est tout. Enfin, la sanctification, pour ce qu'elle n'est pas, ce n'est pas le fait d'avoir tout simplement un sens moral prononcé, c'est-à-dire une bonne moralité. C'était les pharisiens qui étaient comme ça, les braves gens, mais les braves gens qui sont perdus, qui se donnent à eux-mêmes une bonne conscience, qui se disent « moi je n'ai ni tué ni volé ». Alors, eh bien, il y aura bien une place pour moi au paradis, c'est pas comme ça que ça marche, hein. C'est le moralisme, et le moralisme n'a rien à voir avec l'Évangile. Le moralisme, c'est de repeindre un petit peu la façade, de boucher les trous et puis toutes sortes de choses. C'est un pansement, le moralisme. Mais moi, je vous parle d'une nouvelle naissance, d'une vie transformée. Et ça, c'est autre chose. Parce que ça ne concerne pas ce moralisme, eh bien les questions profondes, spirituelles de la sanctification. On va aller un peu plus loin, si vous voulez. Je voudrais, parce que vous avez entendu tout ça, ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas. Maintenant, il vous manque les outils. Il vous manque les éléments, bibliquement parlant, pour savoir comment. Et comment faire. Eh bien justement, c'est pas de faire, c'est d'entendre et de vivre. Écoutez bien. La sanctification prévue par Dieu nous offre plusieurs moyens. D'abord, je l'ai dit, mais je le répète, la foi en Jésus-Christ, qui est le premier moyen de la sanctification. Je crois en Jésus. D'accord? Je crois en Jésus. Ça suffit. C'est ma foi. J'ai pas besoin d'aller chercher autre chose. Paul a reçu ce message de Dieu parce qu'il est devenu un formidable évangéliste et apôtre, enfin missionnaire. Et il dira ceci dans le livre des Actes, il recevra cette parole, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, et pour qu'ils reçoivent, écoutez bien, par la foi, qu'ils reçoivent en raison de leur confiance en Jésus, qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Nous avons un héritage. Et cet héritage, il ne va pas nous être donné ou transmis devant monsieur le notaire, mais il va nous être transmis par la foi. C'est un acte de foi, un acte. Et notre héritage nous est déjà acquis, parce que je le crois. Vous rêvez d'héritage ? Ah ! Si vous avez un tonton d'Amérique, par exemple. L'oncle d'Amérique. Enfin, ils sont en faillite là pour l'instant, mais c'est pas... Bon, soyons sérieux, je fais pas de politique. Mais toujours est-il que, par la foi en moi, nous dit Jésus. Ça, c'est le premier acte. Parce que je crois en Jésus, il y a une œuvre qui se fait, parce que j'ouvre la porte, finalement, de la permission de Dieu, je crois en lui. Le deuxième moyen de nous sanctifier, de la sanctification, c'est la parole de Dieu qui est la vérité de Dieu. Voilà. La vérité de Dieu, c'est le deuxième moyen. La foi, la parole de Dieu, lorsqu'elle est mise en pratique, parce que vous pouvez toujours y aller. J'ai la foi, je connais la parole de Dieu, mais si je la mets pas en pratique, ça ne sert strictement à rien. Absolument. Écoutez, il y a cette belle parole de Jésus dans la prière sacerdotale, où Jésus prie le Père, pour nous, « Sanctifie-les par ta vérité, parce que ta parole est la vérité, parce que la parole purifie, la parole sanctifie. » Vous êtes déjà pur à cause de la parole que vous avez entendue. C'est vrai ? La purification est déjà, la sanctification est déjà, mais elle est progressive. Il faudra quelquefois, parfois, 1, 2, 3 chutes, 10 chutes, et nous revenons toujours en disant « Seigneur, pardonne-moi, mais le Seigneur nous pardonne à chaque fois. » Et puis à un moment donné, ben vous verrez qu'il y a quelque chose qui se fera dans votre vie. Parce que vous restez fidèle à la parole de Dieu. Tout simplement, vous y croyez, c'est elle. « Vous êtes déjà pur à cause de la parole que je vous ai annoncée, » dit Jésus, ce que je citais tout à l'heure. Elle conduit sur le bon chemin, cette parole. C'est un guide, c'est un code, nous pourrions dire, de la bonne route. C'est celui de la pureté, de la sanctification. Pour nos jeunes qui sont au milieu de nous, mais aussi les moins jeunes, mais on est tous jeunes de toute façon, il est dit, comment le jeune homme, et j'y ajoute la jeune fille, hein, naturellement, rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je crois que c'est David qui dira ces paroles, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de ta parole. Je sers ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. C'est la parole qui va être notre garde-fou, mes frères et sœurs. La foi, la parole. Un autre moyen, c'est Jésus-Christ qui sanctifie les croyants en donnant sa vie pour eux. Et il nous est dit, c'est en vertu de cette volonté de Dieu que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ, une fois pour toutes. Nous l'avons déjà cité tout à l'heure. Voilà. C'est le sang de Jésus, c'est-à-dire la dimension expiatoire de Jésus à la croix, c'est le sang de Jésus qui nous sanctifie. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert pour le monde entier. Tout à fait. C'est le Saint-Esprit qui participe, qui est, on pourrait dire, l'exécuteur. Le Père, c'est le plan. Le Fils, c'est celui qui a donné les éléments, les moyens de l'expiation, de la rédemption. Et c'est le Saint-Esprit qui va être l'exécuteur aujourd'hui dans notre vie. Et il participe. Et il nous est dit cette parole extraordinaire. C'est du superlatif, hein, ce que vous allez entendre. Paul dira, mais vous avez été lavé. Mais vous avez été sanctifié. Mais vous avez été justifié au nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Une église où le Saint-Esprit est absent, il n'y a pas grand-chose. Et nous faisons attention de donner la part au Père, de donner la part au Fils et de donner la part au Saint-Esprit dans notre vie communautaire et qu'elle soit au cœur de la parole. Cette dimension tripartite, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est au milieu de nous, le Père est au milieu de nous, le Fils est au milieu de nous, et le Saint-Esprit, il est au milieu de nous, et tout cela, c'est en nous. Alors, par l'Esprit de notre Dieu, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si vous vivez par l'Esprit, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Oui, frères et sœurs, nous avons véritablement aspiré profondément à ce que ce soit le Saint-Esprit, non pas des commandements d'hommes, non pas des règles religieuses ou d'un mouvement ou encore un pasteur, etc., etc. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit, il est la lumière. La parole est la lumière, le Saint-Esprit est l'inspiration, finalement, de cette parole. Il y a également un autre moyen de la sanctification. Alors, je vais faire attention à ce que je dis, parce que faut bien dire les choses. Je l'appellerai la discipline divine pour les enfants de Dieu convertis. Quelquefois, on a trouvé dans le livre des Hébreux le mot « correction ». On a trouvé le mot « punition ». Alors moi, je veux pas. Parce que finalement, Dieu ne punit pas, il sauve. Et je préfère la discipline. Nous qui sommes parents, ou l'étage au-dessus, on a élevé nos enfants, et quelquefois il nous arrive aussi d'avoir nos petits-enfants. Et qu'est-ce que les générations ont changé, hein? Waouh! On apprend des choses, hein? On en apprend tous les jours, hein? Ils sont drôlement actifs, nos petits-enfants, hein. Ils sont drôlement vifs, hein. Ils ont de l'énergie, et nous, on en a de moins en moins. Et ils nous font courir. Enfin, toujours est-il que on n'a pas perdu le sens quand même que quand il faut dire oui, on dit oui, et quand il faut dire non, on dit non. Actuellement, je suis plutôt dans la phase de dire non. Et ça ne fait pas plaisir à l'individu dont je vous parle. Mais néanmoins, papy, il n'en est pas en record arrivé à l'aveuglement, à être aveugle et pas avoir, etc., etc. Mais toujours est-il que, eh bien, vous savez que Dieu fait exactement la même chose. Dieu est notre Père, il n'est pas notre grand-père. Ouais. Mais une chose qui est certaine, c'est que quand il nous soumet à la discipline, c'est pas pour nous faire du mal, c'est pour nous amener, finalement, à évoluer, à grandir, et à devenir matures. Homme et femme faits en Jésus-Christ, une maturité spirituelle, et c'est ce qui nous est dit dans Hébreux chapitre 12, simplement pour lire ce texte, hein, mais ça va pas durer très très longtemps, mais qu'est-ce qu'il est dit dans Hébreux chapitre 12, et au verset 10 et 11, il est dit cette parole, « Nos pères nous châtiaient pour un peu de jours, comme ils le trouvaient bon », c'est ce que nous faisons, hein. « Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à quoi ? À sa sainteté ». Vous vous rendez compte? J'ai eu l'occasion de réfléchir au problème il y a 6 mois. Parce que bon, voilà, quelquefois il arrive des petits accros comme ça dans la vie. Et il y a une pensée qui m'est venue, elle est personnelle, hein, mais une pensée m'est venue, c'est cette pensée-là. Dieu permet des choses dans notre vie pour que nous participions à sa sainteté, vous vous rendez compte? Alors ça m'a calmé un peu dans mes ardeurs d'incompréhension, et je me suis dit, bah écoute, c'est bon Seigneur, ouais, d'accord, voilà, hein, sonde-moi, pour être sondé, j'ai été sondé, hein. J'en ai un souvenir impérissable pour tout le reste de ma vie, mais toujours est-il que, mais si c'est pour que je participe à ta sainteté, je baisse la garde, et puis, tu sais ce qu'il faut, hein, de toute façon, hein. Il nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment, toute correction semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Alors, merci Seigneur, parce que ça va mieux. Merci. Ah, tiens. Alors, ça va mieux, et je me dis, Seigneur, eh ben tout ça, c'est vraiment un beau cadeau que tu as fait. Ouais, merci Seigneur. Et moi je dis que mes frères et sœurs qui est en souffrance physique, qui est en souffrance morale, parce qu'il peut y avoir les deux, ou en conflit spirituel avec vous-même, le Seigneur sait où vous en êtes, et il continue à vous aimer. N'allez pas penser le contraire, Dieu m'abandonne, et puis il me laisse tomber, etc. Non, Dieu continue à vous aimer. Mais il n'y a pas de changement avant ou comme après, ou même pendant. Oui, parce qu'il veut quelque chose de meilleur pour chacun d'entre nous. Et quelquefois, ça passe par des choses qui sont vraiment amères. Pas toujours bonnes, hein, naturellement. Le Saint-Esprit, moyen de sanctification, produit quelque chose en nous, c'est le fruit. Il produit le fruit qui caractérise la personne de Jésus, ce qu'il est, il veut que je sois à sa ressemblance. Et le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Mes frères et sœurs, veillons à ce que vraiment l'amour habite nos cœurs, à tous les niveaux. Que nous ayons des réactions d'amour ou des paroles d'amour. C'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, c'est la douceur et la tempérance. Ça, c'est un moyen de sanctification. Ne pas confondre avec les dons spirituels. Parce que les dons spirituels, il y en a qui se sont véritablement là gaussés d'avoir le don de ceci et cela, mais qui n'étaient pas sanctifiés du tout. Hein. Et puis, avoir les dons spirituels, c'est pas un brevet de sanctification. Hein. Parce qu'on a entendu quelquefois des dons spirituels authentiques avec des gens qui n'avaient pas toujours une vie tout à fait orthodoxe. Le Saint-Esprit nous conduit aussi dans une véritable vie de sainteté, parce que si nous vivons par l'Esprit, nous marchons aussi par l'Esprit. Et il nous est dit à un moment donné, hein, j'espère que ça vous arrive pas, mais je veux pas y croire, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la... Eh ben vous connaissez parfaitement votre Bible. Hein. Eh ben oui, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. Soyez au contraire... Soyez rempli de l'Esprit. Et quand on est rempli de l'Esprit et qu'on dit qu'on est véritablement sanctifié et qu'on a des paroles, on a des gestes, on a des attitudes qui ne sont pas en conformité, alors à ce moment-là, ça vous trahit, vous vous trahissez vous-même, vous vous mentez vous-même et que finalement, eh bien, ça sortira. N'allez pas vous faire d'illusions. Quand on est rempli d'Esprit, eh bien, il est fruit de l'Esprit. Et il y a des choses à supporter. Il y a des choses à finalement, eh bien, là, à vivre. Mais c'est comme ça. Et puis la prière comme moyen de sanctifier, la prière qui est associée à la parole, amène le croyant à la sanctification. Parce que je trouve des exhortations à la sanctification dans la parole, alors aussitôt, avec foi, je me mets à prier en disant « Seigneur, crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. » Parce que je l'ai vu dans la parole. Et c'est elle qui me donne l'idée, c'est elle qui me rappelle l'idée, c'est elle qui me ramène à l'ordre. Et à ce moment-là, je prie. Seigneur, je voudrais tellement être comme ça. Et combien de fois nous avons été confrontés à ce miroir de la parole. Et au lieu de dire qu'est-ce que je suis beau, hein, vous avez vu? Non, je me dis quelquefois je me suis senti laid. Je me suis senti sale. Et même humilié. Et humilié naturellement. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je me contente de ma laideur et puis de ma médiocrité spirituelle? Ou à ce moment-là, je me tourne vers le Seigneur et je lui dis Seigneur, change-moi et rends-moi beau. Spirituellement parlant, naturellement, hein. Vous n'allez pas vous faire un lifting. Et surtout que le lifting, c'est pas ce qui rend beau. Enfin bon. Oui. Si vous l'êtes encore beau, ça vous regarde. Un autre moyen de sanctification, c'est les ministères que Dieu a donnés à l'Église, mes frères et sœurs. Alors il y a le ministère d'apôtre, il y a le ministère de prophète, il y a le ministère d'évangéliste, il y a le ministère de pasteur, il y a le ministère de docteur. 5 dons. Ministère don, d'accord? Et Dieu les a donnés à l'Église pour vous. Et c'est à travers les ministères qui ont été donnés, eh bien, nous allons voir que dans Éphésiens, pour vous le rappeler simplement, ce qui se fait et pourquoi Dieu les a donnés. Au chapitre 4 et au verset 10, écoutez bien. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté aux cieux, pour remplir toute chose, ça c'est Jésus. Il est descendu, il est remonté, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des chrétiens. Dans votre Bible, c'est marqué saint, mais moi je mets plutôt le mot chrétien, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, ça c'est la sanctification, à la mesure de la stature parfaite de Christ, c'est la sanctification. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, etc., etc., etc. Mais, professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Et c'est par son assistance. Et Dieu a donné les ministères. Entre autres, dans nos églises, c'est plutôt le ministère de pasteur. Mais une chose qui est certaine, un pasteur, c'est aussi un docteur. Quand les choses sont enseignées, c'est pas un évangéliste non plus. Mais une chose qui a été, ça a été donné pour votre sanctification. Et en priorité aussi pour celui qui prêche. Parce que c'est bien d'avoir des belles paroles, mais faut le vivre aussi pour celui qui les dit. Aux autres. Parce que c'était bien le problème avec les pharisiens. Ils disent, mais ils ne font pas ce qu'ils disent. Alors, sans concession, hein, tout cela. Et c'est à nous de poursuivre la sainteté. De poursuivre la sanctification, plutôt, pour arriver à la sainteté. Et ayant donc de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte, la foi et le respect de Dieu, de sa parole, de son esprit. Et c'est ainsi que Dieu nous a donné quelques moyens de sanctification. Si vous les avez oubliés, c'est enregistré. Je vous le dis au passage, parce que quelquefois on se dit, mais il y en a eu beaucoup comme ça. Alors on va terminer. La nécessité de la sanctification. Pourquoi est-elle nécessaire? Je dirais peut-être davantage, pourquoi la sanctification est-elle indispensable pour cette vie présente, pour le témoignage vis-à-vis des autres, pour le témoignage que nous avons entre nous, et également pour aller dans le ciel. Parce que je voudrais quand même vous dire que dans le ciel, il n'y a rien de tout ce qui se passe sur la terre, de mal et de mauvais, de laid, de sale et tout ce que vous voudrez. Ça ne sera pas comme ça. Si nous avons un petit différend avec quelqu'un, on est dans la même famille, famille spirituelle ou famille naturelle, je pense qu'il faut il faut régler les problèmes. Et le Seigneur va vous aider à régler les problèmes. Quelquefois, nous avons une nature où nous pouvons finalement être explosifs et bouillonnants et nous disons, nous faisons des choses qui ne sont pas normales, qui ne sont pas normales. Le Saint-Esprit nous le dit dans notre conscience. Parce que vous imaginez pas que quand vous allez, alors là, nous vivons peut-être 30 ans, 40 ans, 50 ans ensemble, hein, peut-être plus naturellement quand c'est un couple, mais une chose qui est certaine, c'est que quand vous arriverez, si vous arrivez le premier et que vous n'avez pas rétabli la relation avec ceci ou celui-ci ou celle-là, et qu'à un moment donné vous allez voir dans le ciel quelqu'un arriver avec qui vous n'êtes pas entendu, il vous dira « Coucou, c'est moi !» Et là maintenant c'est pour l'éternité, hein. Ben vous n'êtes pas sorti. Je suis désolé, hein. Ben, j'ai une façon de prêcher qui est un peu particulière, hein. Mais quand même, mes frères, c'est maintenant, et ça s'appelle la sanctification, ça. Donc c'est nécessaire, absolument. 2-3 points, et je finis. Tout d'abord, la sanctification est nécessaire pour obéir à la volonté de Dieu, et Dieu l'appellera une pureté. Crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. On revient toujours à David, hein. Pour glorifier et être agréable à Dieu. Nous voulons être agréable à Dieu. Bien sûr, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Mais après la foi, il y a tout le processus que nous venons d'établir, que l'on appelle la sanctification. Il est dit à un moment donné, que vous mangiez, que vous buviez, faites toutes choses pour la gloire du Seigneur. Ça s'appelle la sanctification aussi, hein, naturellement. Et puis, peut-être l'essentiel, la sanctification est absolue, elle est nécessaire pour voir le Seigneur. Vous savez ce qu'il nous est dit dans Hébreux chapitre 12, et là c'est quand même un point essentiel de la sanctification. Alors dans Hébreux, on va retrouver ça tout de suite, et il nous est dit au chapitre 12 et au verset 4, voilà. Non, c'est pas, j'ai dû me tromper. C'est Hébreux. Je me suis trompé de référence. Mais toujours est-il, je passe parce que j'ai oublié. Recherchez la paix avec tous. On peut le retrouver. Et la sanctification sans laquelle nul ne pourra voir le Seigneur. Quand il est donné cette, j'ai un peu le souci de Hébreux, chapitre 12 et verset 12. Je vais le trouver quand même. Parce que ça me tient à cœur. Comment? Ah ben voilà, 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 mais merci parce que vous êtes une grande aide, hein. Voyez, vous contribuez à ma sanctification dans la connaissance visuelle des versets. Voilà, il est dit ces paroles, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Ça veut dire, tout ce qui peut nous diminuer dans l'enthousiasme et le zèle de notre vie spirituelle, où quelquefois nous tombons dans la démoralisation, dans le découragement, dans la nonchalance en disant « bof, tout ça c'est difficile, etc. » Suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie point, mais plutôt se raffermisse. Il y a toujours, comme avec le figuier, toujours un moyen de faire grâce. Je marche de travers, mais le Seigneur me dit « bon, on va te guérir, si je veux être guéri, ce qui ne va pas le faire si on ne veut pas. Hein. » Et recherchez la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous vous rendez compte? D'avoir vécu une vie sur terre, dans une église, avec la communion fraternelle, et là où nous avons peut-être fait les choses comme nous pensions devoir les faire, mais sans le Seigneur, sans régénération et sans sanctification, nul ne verra le Seigneur. Vous voulez aller au ciel? Je vois que votre enthousiasme est démesuré, et ça me fait un plaisir extraordinaire. Mais je vous le dis à chaque fois, ça, hein. Mais bon, c'est des petits clins d'œil que je fais, ne le prenez pas mal, hein. Ouais. C'est vrai, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Moi, je vais aller au ciel. Et j'emmène ma femme. Peut-être pas en même temps, mais en tous les cas. Eh oui. Mes frères et sœurs, vous voulez voir le Seigneur? Eh bien, il faut passer par la nécessité absolue d'être sanctifié. Seigneur, sanctifie-moi. Parce que c'est pas possible autrement. Parce que je voudrais vous dire que ça risque d'arriver assez vite. Non pas que nous allons mourir, mais il revient bientôt. Et il nous est dit à un moment donné, tout œil le verra. Voilà. Dernière chose, la sanctification est importante dans nos relations, les uns avec les autres. Qu'ils soient croyants ou non. C'est pas parce que les gens ne croient pas à l'extérieur que nous devons les considérer comme de pitoyables et de misérables païens. Parce que Dieu les aime. Et moi, je pense que la sanctification, c'est aussi avoir une bonne conduite avec ceux du dehors. En toutes circonstances, soyez donc parfaits comme votre Père est parfait. Dieu est parfait. Moi, je suis perfectible. Mais je le veux. Je le désire. Alors, travaillez à votre sanctification, frères et sœurs. Et quand il est dit de travailler, paradoxalement, c'est de rien faire. Et c'est curieux. Parce que quand vous travaillez, vous travaillez, vous mettez la main à la pâte et puis vous travaillez. Mais là, il est dit, travaillez à votre sanctification, c'est le secret du progrès spirituel. Ce n'est pas tant de faire nous-mêmes, mais de laisser faire le Saint-Esprit accomplir son œuvre de sanctification dans nos cœurs et dans nos vies, tout simplement. Et il y a, pour finir, dans Thessaloniciens, pardon, cette belle parole. D'ailleurs, nous avons déjà fait un culte sur le sujet il y a quelques temps, quelques mois, quelques années, je me souviens plus. Dans tous les cas, je me souviens de l'avoir fait. Ça, c'est une chose importante. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, il est dit ce mot, que la paix de Dieu,